Qui va aller sur la Terre?
La Terre? Qui veut aller sur la Terre? Personne pour la Terre?
Sur les autres planètes, ils nous apprennent des choses. Et nous aussi, mais la Terre.
Bon d'accord, ils sont très arriérés, mais c'est pas une raison.
C'est la compétition, l'écriture, la production en masse d'objets qui servent à rien, les guerres, le nucléaire, la destruction de la nature, les grandes maladies sans remède, la préhistoire, quoi.
Hé hey.
Tu crois qu'ils ont encore des automobiles?
C'est quoi les automobiles?
Mais qu'est-ce qu'on fait?
Envers et contre tout, l'Odyssée futuriste pour changer d'atmosphère.
Bienvenue dans Envers et contre tout, l'émission qui vous raconte l'écologie comme un roman d'anticipation avec pour horizon 2050. Après vous avoir conté les vertus des jardins partagés ou de la low-tech, cette semaine, on vous emmène faire les poubelles.
Ne faites pas cette grimace, tout va bien se passer, mais à condition d'ouvrir les yeux. Jusqu'ici, notre raisonnement en matière d'ordures, c'était surtout de cacher ces déchets que nous ne saurions voir. En Afrique d'abord, devenu le cimetière de nos équipements électroniques, ou à Bure prochainement pour nos déchets nucléaires. Dans l'océan Pacifique aussi, où un vortex vertigineux agrège les déchets plastiques du monde entier. On appelle ça la 8e merveille du monde. Pourtant, c'est vraiment pas joli à voir.
Seulement, les dents grincent depuis quelques temps. En début d'année, la Chine s'est faite boudeuse et elle a décrété qu'elle ne voulait plus de nos déchets. L'empire du milieu veut se refaire une santé et ce n'est pas avec les 7 millions de tonnes de déchets qu'elle récupérait chaque année des pays étrangers qu'elle pouvait y arriver.
Il est donc grand temps de se demander ce qu'on peut faire de nos précieux rebuts. En la matière, il n'y a pas à dire, nous sommes des champions. Selon les dernières données de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un Français produit 354 kg d'ordures ménagères, soit deux fois plus qu'il y a 40 ans. Aujourd'hui, seulement 37% sont recyclés et ce chiffre tombe à 22% quand on parle des déchets plastiques.
Pourtant, il se murmure qu'il y aurait de l'or dans nos poubelles. Entendez la clameur des villes comme San Francisco ou Stockholm. Là-bas, on trie, on recycle, on upcycle, on valorise et on change la fange en matière précieuse. Avec nos restes, on fait de l'énergie et les objets connaissent plusieurs vies.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une maxime bien connue attribuée au chimiste Lavoisier et que l'on retrouve dans la démarche zéro déchet qui séduit de plus en plus de monde. Guidée par la papesse Bea Johnson, chacun et chacune affiche fièrement sur les internets le contenu de ces poubelles quasi inexistantes. Dites adieu aux emballages en tout genre qui entourent vos biens et jurez sur le saint tupperware que votre âme ne se détournera plus du vrac.
Amen, le pari est pris. D'ailleurs, l'association Zero Waste France a lancé ce défi à tout le monde début janvier. Et si, en 2018, on n'achetait rien de neuf? Sur cette lancée, qu'en sera-t-il en 2050? Ces étranges radicaux du zéro déchet feront-ils légion? Le recyclage sera-t-il devenu une obligation civique? Mais surtout, l'humain du futur restera-t-il une ordure?
La face du monde.
La semaine dernière, on est allé frapper à la porte de la maison du zéro déchet dans le 18e arrondissement de Paris. Elle a ouvert en juillet dernier et elle organise régulièrement des conférences et des ateliers pratiques pour vaincre les ordures en tout genre. Alors intrigués, on est allé poser nos micros pour voir ce qu'ils s'y disaient.
Combien d'entre vous sont déjà lancés dans le zéro déchet?
Pas mal, pas mal.
Combien d'entre vous veulent, mais c'est quand je serai plus stable, quand ceci, quand cela
Cachée sur un côté de la butte Montmartre, la maison du zéro déchet ouvre à partir de midi en semaine et accueille régulièrement des ateliers en soirée. Il est 19h lorsque nous arrivons. L'endroit est animé. Les gourdes en inox y côtoient des brosses à dents en bambou, du shampoing sous forme solide et une large sélection d'ouvrages pour adopter le mode de vie zéro déchet. Adèle est chargée de coordination du lieu. Elle nous accueille et nous en dit plus sur la naissance et le fonctionnement de la Maison du Zéro Déchet.
La Maison du Zéro Déchet, c'est une association qui a été créée, qui a ouvert le 1er juillet 2017. Elle a été créée par une autre association qui s'appelle Zero Waste France. Zero Waste France, c'est une association de protection de l'environnement spécialisée dans la gestion et dans la prévention des déchets. C'est une association qui existe depuis 1997 et qui a organisé en 2016 un festival, le festival Zero Waste, lors duquel il y a eu un vrai engouement et il y a eu l'idée un peu de créer un lieu ouvert de manière permanente, entièrement dédié aux démarches zéro déchet.
Pourquoi se lancer dans le zéro déchet aujourd'hui? Ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être pour son porte-monnaie, ça peut être pour sa santé, ça peut être pour ses convictions écologiques et pour la planète.
Le premier soir, une quarantaine de personnes assistent à une conférence organisée par deux bénévoles de Zero Waste Paris.
Encore une fois, l'affluence est à hors du commun.
Lucia et Guillaume expliquent les béabas du zéro déchet pour s'y mettre pas à pas.
Il suffit de suivre cinq principes assez simples. Il suffit tout d'abord de refuser. La chose importante, c'est de refuser.
Il rappelle aussi des notions indispensables sur le compostage, le recyclage ou l'incinération.
Donc les incinérateurs, ça peut paraître aussi une bonne idée, puisqu'on se dit, j'ai un truc qui m'embête, je le brûle, il ne reste rien. En fait, non, pour chaque tonne de déchets, il reste à peu près 30 kg de ce qu'on appelle des réfiums, des résidus issus des gaz, etc. Et il reste aussi ce qu'on appelle des mâches-fer, plusieurs kilos de mâches-fer. Donc les mâches-fer, c'est tous les résidus solides.
Le lendemain, la maison du zéro déchet organise cette fois un atelier. Il s'agit d'appliquer les méthodes du zéro déchet lors d'un moment fatidique, les courses.
Donc là, on va arriver au vif du sujet, c'est faire ses courses en mode zéro déchet. Il y a différents sujets qu'on va voir. Donc bien sûr, le premier, c'est de s'organiser. Le zéro déchet, ça ne s'improvise pas. Donc si on va, sans avoir réfléchi, les mains dans les poches, et on revient chargé de déchets.
Une dizaine de personnes sont pleines de bonne volonté pour s'y mettre.
Donc là, on fait des menus pour la semaine ou
voilà, pour la semaine.
Première étape, établir une liste des courses. On saura ainsi quoi piocher dans les rayons vrac pour se remettre à cuisiner et emporter ses plats sans emballage au travail.
Donc voilà, donc on vous laisse travailler. Vous avez des petits papiers, des crayons.
Qu'est-ce qu'on va manger
cette
semaine?
Pour l'instant, pas grand-chose.
C'est la famille, là. On s'inquiète.
Il faut ensuite s'organiser pour faire ses courses. La maison du zéro déchet propose elle-même plusieurs produits en vrac ou sans emballage.
On est ici dans le magasin... la maison du zéro déchet, donc on a beaucoup de cosmétiques et notamment des shampoings durs.
Les cosmétiques sont souvent les premiers produits achetés par les personnes qui débutent dans le zéro déchet.
Totalement naturel, à chacun donc son produit en fonction de
la cuisine est aussi l'un des thèmes phares du zéro déchet.
Donc là encore un des premiers les premiers objets qui sont achetés lorsque les personnes veulent passer au zéro déchet, donc il y a la gourde qui est un incontournable, gourde simple ou thermos, et également les sacs à vrac qui permettent donc...
C'est l'occasion de relancer de nouvelles règles du jeu. Il faut maintenant passer à la pratique et chacun s'essaye au jeu de rôle.
Là, on va faire un autre petit jeu. On vous propose de faire... Donc, choisir un des plats que vous avez dans pour votre semaine et que une personne dans le groupe se prépare à aller faire les courses en mode zéro déchet.
Les participants s'amusent à jouer tour à tour à la marchande et aux clients.
Oui, c'est le gorgonzola.
Gorgonzola.
Bonjour madame. J'aurais besoin de 200 g de gorgonzola.
Très bien.
Alors, je vous embête tout de suite avant toute chose. Je suis dans une démarche écologique. Du coup, j'ai amené mon réceptacle à fromage.
Oh, d'accord.
Le plus dur reste d'assumer de refuser tout emballage auprès des magasins. Le tout fermement, mais poliment. C'est à ce petit geste que vous reconnaîtrez assurément un militant zéro déchet. Ouvrez grand les yeux, il y en a plein autour de vous, équipés de tote bags et autres contenants au fond de leur sac.
Merci à la Maison du Zéro Déchet de nous avoir ouvert ses portes. On continue maintenant la discussion avec nos invités.
La table ronde.
Pour cette table ronde, on plonge dans le futur de nos poubelles avec deux invités complémentaires. Nous avons avec nous Augustin de Lemon Tree. Lemon Tree, c'est une entreprise qui propose des services de recyclage ludiques et gratifiants. Pour trier leurs emballages, vous équipez les entreprises de machines intelligentes qui distribuent des bons points, des bons d'achat en échange d'un déchet déposé. Une manière d'inciter les gens à trier leurs déchets. Bonjour Augustin et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Et à vos côtés, c'est Enedina de l'association Zero Waste Paris, une déclinaison locale de Zero Waste France qui, comme son nom l'indique, défend le zéro déchet et fait la guerre au gaspillage et au jetable. Bonjour Enedina, merci d'être avec nous aussi.
Bonsoir, merci de m'avoir accueillie.
Je vous propose de commencer cette discussion en faisant un petit état des lieux de la situation en France. Et ma première question, ce sera comment se situe la France en matière de recyclage? Comment ça fonctionne en France? Peut-être une question pour toi, Augustin.
Alors, juste avant de démarrer, je précise, comme on est à la radio, que c'est bien Lemon Tree.
Oui, j'ai fait
T-R-I comme tri sélectif. Okay. Parce que prononcer un peu à l'anglo-saxonne, on a envie d'y mettre deux œufs.
Désolé, c'est l'influence musicale.
Mais effectivement, c'est un nom qu'on a voulu un peu chantant. Alors, le recyclage, c'est sûr qu'on a beaucoup de progrès à faire encore en France. Là, les statistiques que vous avez citées, et notamment sur le plastique, sont un peu alarmantes, c'est-à-dire que la consommation est de plus en plus importante et les taux de recyclage sont faibles, beaucoup trop faibles, 20% pour le plastique en France. Donc nous, on essaye d'agir avec différents leviers, le jeu, la gratification, aussi la solidarité, puisque sur la plupart de nos machines, les gens peuvent faire un don à une association pour ramener un maximum de personnes vers le recyclage, le tri à la source et évidemment derrière pouvoir redonner vie à cette matière.
Et du coup, ça s'est installé dans des entreprises, dans des campus pour motiver le plus de gens à trier, à ramener ces déchets, c'est ça ?
Alors on équipe toute une palette de lieux où il y a une consommation. Donc effectivement, des entreprises, des campus, des centres commerciaux, des centres sportifs, on peut même installer des machines dans la rue. Le but, c'est effectivement d'abord de capter cette consommation nomade. Ce qu'on oublie de dire, c'est que la grosse part du recyclage qui est faite, et si tant est qu'elle soit faible, elle est faite plutôt à la maison. Nous, on cible ce qu'on appelle le hors domicile, donc effectivement tous ces lieux de consommation qui sont en dehors de chez soi. Et un peu plus récemment, on a aussi essayé de motiver des personnes pour augmenter au global le taux de recyclage à apporter leurs bouteilles, notamment dans des magasins. Donc on installe aussi des bornes à l'entrée des supermarchés et des magasins pour que les gens puissent trouver aussi un lieu complémentaire pour déposer ces emballages.
Et pour en revenir un peu à la situation en France du recyclage, comment est-ce que ça fonctionne, par exemple, une fois que nos déchets ils sont triés dans nos poubelles ? Ça va où tout ça, en fait ?
Alors déjà, c'est bien de tordre le cou à certaines idées reçues que parfois tout est remélangé. En tout cas, il existe un canal domestique qui est le bac jaune où on peut mettre un certain nombre d'emballages qui repartiront d'abord dans un centre de tri, puis dans une usine de transformation, donc de recyclage. Donc là, le but, c'est aussi d'être transparent et de réinstaurer de la confiance dans ces circuits. Et après, il y a d'autres circuits, on va dire, complémentaires. Ça ne veut pas dire que la transformation sera différente, mais ce sont des circuits de captation complémentaires, parce que d'abord, il n'y a pas de bac jaune partout. Je vous ai cité tous ces lieux hors domicile où il n'y a finalement pas de dispositifs initiaux. C'est là où nous, on vient agir pour renforcer la captation. Donc déjà, récupérer ces déchets recyclables pour les mettre dans le bon tuyau.
Ok, mais par exemple, on dit aussi souvent que selon les régions, on peut mettre par exemple les pots de yaourt dans l'équivalent bac jaune, mais à Paris, par exemple, c'est pas possible. Comment ça fonctionne en fait ? Parce qu'au niveau national, c'est pas uniforme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ?
Oui, en fait, c'est lié aussi au centre de tri derrière et leur capacité à avoir un tri plus ou moins fin. Donc, est-ce qu'ils sont plus ou moins sophistiqués ? Il y a consensus sur un certain nombre d'emballages, une bouteille plastique, une canette, un flacon de shampoing. Ça, c'est toujours possible de les mettre dans le bac jaune. Et puis après, il y a ce qu'on a appelé l'extension des consignes de tri. Donc, la volonté d'aller chercher différents plastiques, notamment, et des tests un petit peu partout en France pour dire, bah oui, mettez votre pot de yaourt, on va isoler dans les centres équipés ce flux pour demain le recycler. Donc l'extension des consignes de tri ne touche pas encore toute la métropole, mais le but est que ça soit possible. Et pour ça, il faut aussi équiper évidemment les centres derrière pour qu'ils aient un tri optique plus sophistiqué, etc., etc.
Donc c'est justement l'un des efforts à
uniformiser,
faire
ouais, voilà, tout à fait.
Pour que le recyclage se démocratise encore plus, quoi.
Mais j'insiste sur le fait que d'abord le geste est le premier acte qu'on peut faire. Quand on a quelque chose de recyclable, surtout pas le mettre dans les ordures ménagères. Et puis réduire, je pense que ma voisine va en parler mieux que moi, mais voilà, que ce soit les biodéchets, il y a énormément de choses qu'on peut du coup composter, hein, c'est un tiers de nos ordures ménagères. Et voilà, se poser la question de se dire, quand j'ai quelque chose en main, quelle est la meilleure voie que je peux lui donner pour que ce soit régénéré.
Absolument. Et Nedina, du coup, on va passer à toi sur le zéro déchet, donc qui serait un peu justement une pratique complémentaire en quelque sorte du recyclage. Est-ce que rapidement tu peux nous dire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est les valeurs derrière le zéro déchet?
C'est une démarche globale qui tend bien sûr vers le zéro déchet. C'est un idéal. Ça peut faire peur à certaines personnes parce qu'elles se disent bah non, je ne vais jamais y arriver. Il y a tellement d'emballages. Nous vivons dans un monde où effectivement la croissance, la surconsommation a une tendance même exponentielle. Ça, c'est encore un autre sujet. Et les déchets sont là. Mais s'ils n'étaient pas là, ça serait encore mieux. Mais comment faire? Effectivement, c'est une tendance qui commence par refuser. Bon, les 5 R dont on parle souvent, c'est refuser tout ce qu'on nous donne. Et il y a énormément de produits qui sont, d'articles qui sont produits, mais qui sont inutiles, ou qu'on peut bien s'en passer, ou qu'on peut bien remplacer par d'autres produits durables. C'est aussi de réduire. Si je n'ai pas le besoin d'avoir 50 paires de chaussures ou 80 comme j'en ai eu autrefois, pourquoi les avoir? C'est réduire vraiment. J'en ai besoin pour mes besoins vraiment vitaux, je n'ai pas besoin de plus. Mais ça, c'est vraiment personnel, chacun met ses limites. Et après, bah, bien sûr, il y a le réutiliser tout ce qu'on a, qu'on n'a pas pu réduire, qu'on n'a pas pu refuser. Là, effectivement, on va le recycler parce qu'on n'a pas eu d'autre solution. Mais avant ça, il a d'autres choses, il a deux autres leviers. Mm-hmm. On recycle et puis à la fin, on composte tout ce qui est organique. Ça, c'est la démarche. Par rapport à ce que disait Augustin du recyclage en France, effectivement, on parle de 20%, ce qui est vraiment très peu. Mais
pour,
aussi, pour le plastique, par exemple, mais il ne faut pas oublier que le 80% restant, qu'est-ce qu'on fait avec? En fait, on va l'incinérer, on va l'enfuir. En Île-de-France, par exemple, le taux d'incinération est de 60% de toutes les ordures. Il y a à peu près 10% pour l'enfouissement. Mais ça va aller là, c'est-à-dire qu'on a utilisé des ressources naturelles pour les créer, pour les utiliser très souvent, très peu de temps, une utilisation minime, quelques minutes parfois, ou uniquement pour faire le transport, ce qui concerne les emballages d'une boutique à la maison, et tout ça pour les mettre dans un trou d'enfouissement ou pour les incinérer. Ouais. La partie recyclage est très, très complémentaire d'une démarche de zéro déchet. Effectivement, nous allons recycler tout ce qu'on n'a pas pu réduire. Et c'est important que le taux de recyclage monte en France, en Île-de-France. Et on aura, même si on atteint 100% de recyclage, on aurait peut-être réglé un peu la partie déchets, mais on n'aura pas réglé la partie ressources.
Oui, parce que voilà, ça consomme déjà de l'énergie de les créer. Donc,
Oui, c'est la fabrication. On va utiliser aussi d'autres ressources de l'énergie, des transports, beaucoup de CO2 qu'on va produire quand on va les transporter, parce qu'on va les collecter. Après, bon, les montries, c'est un circuit plus court, mais collecter tous les déchets qu'on a produits pour aller les recycler, pour séparer les matières, on ne se rend pas compte, c'est énormément d'eau, énormément d'énergie, plus le transport. Alors que c'est l'origine, on avait pensé à se dire, mais si je peux ne pas l'avoir, n'est pas l'utiliser, je penserai aussi aux ressources naturelles qui seraient vraiment pas utilisées.
Ok, et du coup, donc là on a parlé un peu, on a fait un peu l'état des lieux du recyclage en France. Il y a des modèles type la Suède qui nous inspirent, mais quel serait le prochain levier à faire lever en France pour parvenir à ça?
Je pourrais dire peut-être que dans les leviers, c'est les changements des comportements. Parce que, bon, va aussi le dire Augustin, quand on prend le petit objet pour aller le recycler, c'est vraiment en France, ou partout dans le monde, le changement de comportement est un point à travailler.
Augustin ?
Si on parle de la Suède, d'abord, il y a un dispositif qu'ils ont en place chez eux que nous n'avons pas, c'est le système de consignation. Donc là, c'est vrai que ça vient toucher à certains leviers qui est d'abord la conscience, c'est-à-dire ce que j'ai entre les mains a une valeur. Le deuxième levier, c'est vraiment le levier financier. Si vraiment je n'en ai rien à faire que je laisse mon emballage, en fait, quelqu'un viendra probablement le récupérer pour moi parce qu'il, lui, veut, soit il le fait par conscience écologique, ou alors il veut récupérer l'argent que représente cet emballage. Donc on voit que dans ces pays où les taux de recyclage sont supérieurs à 90% sur des emballages bien identifiés, ils sont tous passés à la consigne. Donc il y a un débat actuellement en France, en tout cas c'est un sujet qui monte. Nous, les machines qu'on utilise, elles sont très proches des machines qui sont utilisées en Allemagne, en Suède, dans certains États des États-Unis, justement sur ce système de consignes. Donc je pense que c'est important de se poser la question, de se dire, on a une ambition, notamment sur le plastique, qui est hyper forte. Le ministère et Nicolas Hulot ont annoncé qu'ils voulaient 100% de recyclage des plastiques à horizon 2025. C'est très, très ambitieux.
Ouais, de 22 à 100%. Donc, hein.
Voilà, si on veut se donner un tant soit peu les moyens de tendre vers cet objectif, on va être obligé de prendre des mesures assez rédhibitoires et du coup, voilà, de repenser évidemment nos modes de consommation, mais aussi de dire, bah voilà, regardons ce qui marche ailleurs et appliquons-le.
Parce que là, du coup, c'est vraiment plus uniquement une démarche individuelle. Parce que là, on parlait de, il va falloir faire un effort sur sa consommation, il va falloir se rendre compte que l'être humain produit du déchet, mais il faut aussi une politique beaucoup plus, disons, ambitieuse et en tous les cas, mettre en place une réglementation qui permet d'aller vers ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec les consignes, si on est dans une démarche individuelle, on veut justement ramener sa bouteille de verre, où est-ce qu'on la ramène, comment, enfin, est-ce que les infrastructures sont là aujourd'hui pour permettre ça? Ou c'est encore
Bah, ça se fait pas du jour au lendemain, ouais. Donc c'est sûr qu'il suffirait pas de claquer des doigts et de dire consigne pour tout le monde. Ouais. Donc ça s'accompagne mécaniquement de l'installation d'un dispositif adapté, aussi d'un changement de posture d'un certain nombre de points de vente, puisque du coup il se positionne aussi en point de récupération.
Ce qui n'est pas encore très courant aujourd'hui.
C'est pas très courant, mais après, ça va générer des initiatives. Mmh. C'est bon pour l'emploi. C'est bon pour l'emploi social aussi, parce que chez Lemon Tree, on a aussi une structure qui s'appelle Lemonade, qui est engagée dans une démarche d'insertion sociale. Voilà, faut pas avoir peur de se dire oui, ça implique un changement de modèle.
Mmh, bien sûr.
Parce que voilà, d'abord c'est bien de d'y aller franchement, et derrière ça crée des emplois, ça crée des initiatives. J'aime bien aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent des Redemption Center, donc c'est effectivement des lieux où des personnes se sont développé pour accueillir des emballages consignés. Donc ça va vraiment de la toute petite cahute avec un bonhomme qui a son agrément pour récupérer, à des choses beaucoup plus grosses et des organisations plus structurées, notamment à l'entrée des supermarchés. Mais voilà, c'est relativement libre.
C'est une initiative assez nouvelle.
En tout cas, c'est pas si neuf, puisque en fait la consigne existe depuis les années 70 dans certains États américains. Donc effectivement, ça fait quand même déjà quelques années, ils ont du recul sur le sujet. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça n'est pas forcément cloisonné en disant bah ce sera tel secteur d'activité qui s'occupe de toute la récupération. C'est relativement ouvert et du coup, ça génère des initiatives et encore une fois, pas mal d'initiatives sociales.
Il y a le côté individuel, effectivement, une prise de conscience, mais nous ne pouvons pas faire ça tout seul.
Oui.
Nous avons vraiment besoin d'être avec d'autres personnes. Le côté institutionnel, le côté entrepreneurial aussi, ça, c'est très important. Et ce qui est en train de monter, nous ne savons pas dire si c'est uniquement parce que les individus, côté individuel, ont commencé à le faire ou c'est parce que d'autres sont venus à l'aider, mais tout est en train de monter. Et nous revenons un petit peu au défi, rien de neuf.
Oui, vous pouvez nous en parler. Donc.
Par exemple, en quelques jours, Zero Waste France a lancé ce défi. En quelques jours, elle a créé un groupe Facebook. Et
donc, c'est le défi rien de neuf en 2018.
Rien de neuf jusqu'en 2019.
Voilà.
C'est effectivement de faire, c'est dire, pourquoi je devrais m'acheter un produit neuf. Bon, on laisse de côté toute la partie hygiène alimentaire, mais finalement le reste, pour certains, se rend compte que ça peut être même du superflu, parce que je n'ai pas forcément besoin d'un pull neuf pour cette année, je pourrais bien m'en passer pendant une année. Bon, ça c'est une réflexion. En quelques jours, nous avons créé un groupe de 7000 personnes, ça veut dire que ça intéresse du monde. Et cette partie collective de dire, voilà, on va s'entraider, peut-être que je ne connais pas les montrer, mais quelqu'un va m'en parler dans le groupe. Je ne connais pas un autre acteur qui récupère des jouets, je pense à rejouer pour mes enfants, qui collecte des jouets, qui va les louer, qui va les revendre d'occasion. Et ça permet d'avoir aussi un réseau, aussi des solutions, d'options, d'alternatives par ailleurs. Mais finalement, nous avons besoin aussi d'aide des pouvoirs publics, des politiciens, pas des installations, et puis aussi des collectivités. C'est-à-dire que nous pouvons faire tout ça ensemble. Mais à chaque fois qu'une personne, nous ne nous rendons pas compte à quel point nous sommes vraiment consommateurs. C'est à chaque fois que j'achète quelque chose, chaque fois que je mange quelque chose, je vote. C'est un acte important, et c'est très important parce que finalement personne ne va m'obliger. J'ai une pléthore d'options devant moi, mais si j'ai choisi une seule, celle qui me convient à moi, mais qui est vraiment durable et que tous, bon, la majorité d'entre nous pouvaient le faire, ça changerait vraiment la donne. Mmh.
Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi travailler de l'autre côté, c'est-à-dire se dire, par exemple, pourquoi pas se dire tous ces plastiques qu'on ne peut pas recycler? Pourquoi est-ce qu'on ne les interdirait pas, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas un côté très réglementation qui peut aussi aller vers, évidemment, une prise de conscience individuelle et citoyenne?
Alors, il y a un vrai sujet sur la recyclabilité des éléments, qui est une problématique. Et c'est sûr qu'il faut d'abord agir en amont, dans la création, dans la conception de tous ces objets. Et voilà, faire en sorte de maximiser leur recyclabilité. Et je dirais même avant de maximiser leur durabilité. Donc ça, c'est sûr que c'est un point important. Et puisqu'on parle de projection, il faut absolument que cette éco-conception se développe.
Il y a eu des progrès, par exemple, qui ont été faits là-dessus. On voit un peu une évolution ou on a encore beaucoup de chemin à faire Ouais, beaucoup.
C'est sûr qu'il y a du chemin à faire. Il y a déjà une prise de conscience. On sent quand même que, notamment les grands groupes, donc ces structures qui mettent en marché un certain nombre de produits, ils ont intégré cette réflexion. Après, c'est pas parfait. Parfois, les sirènes du marketing reprennent un peu le dessus et nous créent des emballages multicouches, durs à recycler, mixent les différents plastiques, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est ce qu'il faut éviter, mais je trouve qu'en tout cas le sujet est porté, notamment au sein des structures industrielles.
Et du coup, est-ce qu'on peut y croire, donc pour 2050, là vous avez énoncé l'objectif donc de recyclage de 100% du plastique d'ici 2025, ce qui paraît très ambitieux, mais est-ce que pour 2050 on se dit que ça peut être atteignable? Est-ce qu'il y a d'autres produits, d'autres matières qu'on peut imaginer recycler à 100% d'ici cette date?
Peut-être il y a le recyclage, mais aussi je reviens à la consommation des ressources naturelles, parce que nous avons une croissance qui est exponentielle, c'est qu'on oublie souvent. Beaucoup de gens croient encore que c'est une croissance linéaire. Et depuis les années 70, on s'en est rendu compte. Il y a eu le Club de Rome, des personnes qui ont commencé à parler de la décroissance ou le limite de la croissance. Et nous n'en tenons pas forcément compte maintenant, parce que comme elle est exponentielle, c'est très rapide, mais c'est petit à petit les premières années. Et si on considère cette logique des gens qui ont parlé de ça dans les années 70, on arriverait en 2050 à avoir à une dégradation de 25% de la superficie sur la planète, dans le monde, ce qui est énorme, sauf qu'en 2060, ça serait 50%. Et ça, c'est une tendance qui est le problème, c'est qu'elle commence à se confirmer. Il y aura peut-être des choses plus ou moins longues. Et c'est un calcul mathématique. Notre cerveau n'est pas préparé à faire des calculs géométriques, plutôt linéaires. Et il y aura effectivement
beaucoup d'ambition, mais le gros souci, c'est qu'il faut commencer dès maintenant.
Surtout à réduire demain. La consommation, en fait.
Si on réduit déjà, si on se rend compte que nous produisons beaucoup, beaucoup trop d'objets, même neufs, surtout neufs, je reviens à notre défi, pourquoi utiliser des choses qui sont neuves, qu'on va encore produire, s'il y en a tellement sur le marché, rien que les vêtements, c'est 80 milliards d'objets mis en vente par an. Je n'ai pas forcément besoin, j'ai besoin de me vêtir, mais pas forcément de tout ça.
Pas forcément avec des choses neuves, il y a déjà plein de choses en circulation.
Et puis, ne pas oublier que ça, c'est nos objectifs nationaux, mais on est tous ensemble au même niveau sur la planète. On va continuer à extraire des ressources ailleurs, mais on va aussi créer des problèmes de pauvreté. Effectivement, en France, heureusement qu'il y a des choses qui tiennent compte aussi de ce côté de l'économie sociale et solidaire. Mais c'est un ensemble. Il faut vraiment penser à un ensemble. Il a des objectifs pour tel matériau, pour telle filière. Mais finalement, c'est l'ensemble qu'il faudrait revoir.
Mais à la fois, il y a une ambition, il y a une volonté dans tous les cas citoyenne avec les mouvements zéro déchet quand même qui émergent un peu partout. Oui. On sent qu'au niveau des entreprises, des supermarchés, ça bouge beaucoup aussi parce que justement, il y a cette volonté citoyenne. Au niveau politique, donc, il y a eu l'accord de Paris. On sent que là aussi, il y a un désir en tout cas de faire avancer les choses. Voilà. On a l'impression que ça bouge. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que justement on peut imaginer que ça va vraiment s'accélérer enfin pour réduire et changer complètement de mode de production? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y croyez? Vous êtes optimiste, j'imagine, puisque vous vous investissez dans ces secteurs. Mais Augustin?
Moi, je vois aussi... énormément d'avancées technologiques parce que tout à l'heure on a parlé de l'amont, donc de la conception. Les deux autres briques vont être la collecte, la captation. Donc nous, c'est en grande partie notre travail, mettre à disposition des outils performants, des outils intelligents, des outils aussi ludiques et attractifs pour améliorer cette captation. Tout à l'heure, on a parlé de l'optimisation des circuits, et c'est vrai que c'est primordial d'essayer de recycler. Nous, on recycle tout en France, et c'est déjà une première limite. Après, on essaye d'aller aussi au plus près. Donc, l'optimisation de ces circuits, c'est un des éléments clés. Et puis, le dernier, c'est aussi la transformation. C'est sûr que si on a bien travaillé au début, c'est plus facile, et la technologie avance, notamment... Je prends la recyclabilité du plastique. En théorie, si ce plastique n'est pas, ne contient aucun polluant, il peut être recyclé à l'infini.
Oui, parce qu'il y a cette question-là aussi dans le recyclage, c'est qu'il y a certains matériaux qui aujourd'hui ne peuvent pas être recyclés plusieurs fois en fait.
Oui, qu'on parle du papier ou du plastique aujourd'hui, on est limité dans le nombre de cycles. Donc ça veut bien dire qu'à très long terme, on arrive dans une impasse. Sauf que quand je dis que la technologie évolue, on arrive notamment, je vous invite à aller voir une initiative à Loop Industries qui promet un recyclage chimique, ça veut dire sans énergie, parce que c'est aussi un des sujets dont on a parlé, et suffisamment évolué. Donc, on parle de dépolymérisation. mais sans trop rentrer dans la technique, qui permet du coup de faire des cycles à l'infini.
Okay. Wow.
Donc ça, ce sont des choses à horizon 2050, qui j'espère seront beaucoup plus évoluées, qui ne nous empêchent pas de mener la réflexion en amont, comme le fait Zero Waste, pour dire avant ça, réduisons, ayons une consommation plus responsable, plus locale, et nous ça, qu'on soit bien clair, chez Lemon Tree, on l'encourage à fond. Mais c'est un mouvement, ce sont des choses qui avancent en parallèle, et ces technologies, que ce soit sur la conception, sur la captation ou la transformation de la matière, elles évoluent, elles seront de plus en plus perfectionnées.
Ok,
absolument. On va bientôt conclure. Du coup, peut-être juste un mot, votre souhait, assez brièvement, pour 2050.
À quoi ressemblerait la planète idéale zéro déchet
c'est
pour
ça.
Vous
Idéal, ce serait vraiment sans déchets.
Oui.
Malheureusement, on ne pourra pas le faire comme ça si on ne change pas tous notre mode de consommation. Vous avez posé la question si on est optimiste ou pas. Je dois être optimiste. J'ai trois enfants en bas âge. Elles verront des choses que peut-être je n'aurais jamais imaginées auparavant. Et nous devons faire ça, cet effort. Ça sera finalement parce qu'on n'aura plus le choix. Parce que de toute façon, les ressources continueront comme ça, parce qu'on consomme vraiment beaucoup trop, parce qu'il y a la pollution, il y aura d'autres mouvements. Bon, on ne va pas peindre le tableau tout noir, mais on n'aura plus le choix. Ça sera comme ça. Et plus vite on va commencer, la technologie, est, heureusement qu'elle est là, mais elle ne pourra pas tout régler. Il va falloir vraiment qu'on change nos modes de consommation.
Ok. Augustin ?
Et moi aussi, je suis plutôt optimiste. Ouais. Je pense que l'homme se réinvente et se réinvente encore plus vite quand il est dos au mur. Et effectivement, là, on est très très proche de ce mur. Voilà, l'enjeu écologique, social, économique aussi. C'est sûr que voilà, cette extraction de matières premières va être de plus en plus chère. L'énergie qu'on utilise aussi. Donc, je pense que voilà, ça va pouvoir s'améliorer si on agit, si on réagit. Et du coup, j'y crois. Et en 2050, je compte bien être là pour attester de tout ça.
C'est bien, c'est positif en tout cas. Ouais,
nous aussi, on y croit. Dans tous les cas, merci Augustin, merci Medina d'avoir participé à cette table ronde. Et on va faire une petite pause musicale avec Hommage de Mill High Club. Et on revient juste après pour imaginer un futur où le déchet serait une denrée rare.
C'était Hommage de Mild Eye Club et on passe maintenant à la denrée rare.
La denrée rare.
La denrée rare, c'est quelques minutes pour imaginer le monde face à la pénurie de l'un de ses éléments et ses conséquences sur nous et la planète. Ce soir, Mathilde va tenter de nous faire croire qu'un monde sans déchets, c'est possible.
Projetons-nous 700 ans dans le futur. L'humanité a déserté notre planète, laissant à une incroyable machine le soin de nettoyer la Terre.
Je vous rassure, ce que l'on vient d'entendre, c'est l'intro de Wall-E, un film d'animation Pixar avec un robot très chou, à qui revient l'immense tâche de trier tous les déchets que les humains ont laissés sur la planète. Eux ont pris la fuite à bord de vaisseaux spatiaux, lâches et effrayés par les immondices liés à leur surconsommation. Et lui se tape le boulot tout seul à devoir tout ramasser et tout nettoyer. Pour éviter d'en arriver là, j'ai imaginé un autre scénario. On ne va pas se projeter dans 700 ans comme dans Wall-E. Notre horizon, ça sera plutôt 2050. Vous l'aurez compris si vous écoutez Envers et Contre Tout. Imaginons donc ensemble qu'en 2050, les déchets aient disparu. Je ne suis pas la seule à y croire d'ailleurs. Alors oui, les déchets font partie de la vie. Dès la préhistoire, on mangeait la viande jusqu'à l'os, mais une fois qu'il n'en restait plus qu'une miette, eh bien, de ces os, on en faisait des tas. Et puisque l'heure était au nomadisme, on fichait le camp bien loin de là, sans trop regarder ce qu'on laissait derrière soi. À l'époque, il faut dire que l'humain pouvait encore avoir la conscience tranquille. C'est ainsi qu'on a avancé dans les époques sans trop se préoccuper de nos immondices ou en les déversant simplement dans les rues en criant « Gare, dessous !» Mais on n'en est plus là. Désolée de vous le rappeler, nos déchets ne forment plus seulement de petits tas, ils s'accumulent dans des immenses déchetteries qui débordent et polluent. À part quelques illuminés qui croient dur comme fer qu'on pourra un jour coloniser une autre planète, a priori, le scénario Wall-E, c'est pas pour nous et il va falloir qu'on se débarrasse de ces déchets nous-mêmes. Et là, c'est encore Dame Nature qui va nous prodiguer toute sa sagesse. Vous en avez vu, vous, des déchets produits par la nature ? Les seuls débris qu'on y voit, ce sont ceux laissés par l'humain passer par là. Car sinon, la nature fait feu de tout bois. Rien ne s'y perd, rien ne s'y crée, tout s'y transforme. C'est l'économie circulaire par excellence. La chaîne alimentaire est si bien conçue que chacun nourrit l'autre, jusqu'à la terre qui se gave en dernier. Gunther Pauli, un économiste belge membre du fameux Club de Rome, nous incite à imiter la nature. On appelle ça le biomimétisme. En 2011, il a inventé le concept de l'économie bleue. Bleue comme la couleur de la terre vue du ciel. Sa promesse, tout changer en 10 ans grâce à 100 innovations, tout en créant 100 millions d'emplois. Cet homme semble avoir la réponse à tout. L'économie bleue, un rêve à portée de main.
Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi c'est fabuleux, quand dans les cieux, nous partageons.
Dans les faits, ce rêve bleu, c'est un peu plus compliqué que ça et ça prendra sans doute un peu plus de 10 ans. Mais on tient le bon bout et on y croit. L'économie bleue ne recycle pas, elle régénère, nous explique Gunther Pauli. Nos usines doivent produire comme la nature et les déchets des uns devenir les matières premières des autres. La boucle infinie. Nos débris deviennent le carburant de toutes les innovations possibles. Gunther Pauli a listé pas mal d'initiatives à mettre en place sur ce modèle, qu'il a pioché ici et là, comme une usine qui fabrique du papier à partir de poudre de pierre ou une champignonnière constituée à partir de marcs de café. Et avec toutes ces nouvelles activités produites localement et à partir de déchets, le prix des biens de consommation baisse et on crée en prime des emplois. Si Gunther Pauli est un gourou encore un peu confidentiel, sa théorie de l'économie bleue se développe rapidement au cours des années 2020-2030 et on assiste à un véritable changement d'échelle dans le mouvement zéro déchet. Déjà, les entreprises ont capitulé sous la pression de consommateurs excédés par les températures qui se réchauffent et les perturbateurs endocriniens qui les empoisonnent. Elles ont réduit leurs emballages au maximum et se sont détournées des matières plastiques. Les supermarchés l'ont bien compris aussi. La plupart des rayons sont en vrac désormais. Chacun a pris l'habitude de venir avec des sacs et des contenants. Une consigne permet même de parer aux oublis des têtes en l'air. Les boutiques qui proposaient autrefois du neuf commencent à fermer à force de ne plus être approvisionnées en choses nouvelles made in China. Progressivement, elles sont remplacées par des magasins qui ne proposent plus que des produits réparés, recyclés, reconditionnés et où l'on peut parfois faire du troc plutôt que de payer avec sa monnaie dématérialisée. Puisque ça avance du côté des entreprises, les politiques publiques n'ont plus d'obstacles et font enfin un grand bond en avant. Des robots sont déployés pour verbaliser toute personne qui se tromperait de poubelle de tri, enfin en quantité importante dans les rues. La consigne est réinstaurée un peu partout. À l'école, les béabas des réparations et des travaux ménagers écolos sont enseignés. Le système de paiement de ces poubelles au poids est enfin appliqué partout en France. Et quand ça frappe au portefeuille, les battles de zéro déchet s'enchaînent et c'est à qui aura rempli le plus petit pot à la fin de l'année.
Les mégots, qu'on jetait encore d'une pichenette sur les trottoirs et les plages dans les années 2010, sont devenus une denrée très rare, qui se négocie plusieurs centaines d'euros le kilo. Des chercheurs de mégots arpentent les rues pour se faire de la maille en revendant ça aux entreprises, qui les transforment en un matériau qui stocke facilement de l'énergie, sur le modèle de ce que les Sud-Coréens ont lancé à la fin des années 2010. Les déchets deviennent bientôt un lointain souvenir. Mais pour ne pas oublier cette grande catastrophe, un musée des déchets ouvre ses portes en 2050 à Paris. On y retrouve les compressions de voitures de César ou les accumulations d'Armand, qui faisaient déjà au XXe siècle des œuvres d'art à partir de rebuts pour dénoncer la société de consommation. Et dans ce musée des déchets, on vient aussi admirer la matière et les couleurs des sacs plastiques, du papier bulle, des objets en plastique des années 70, le matériel technologique qui n'a pas pu être valorisé. Les rudologues sont devenus les nouveaux archéologues, étudiant le contenu des poubelles pour retracer l'évolution de la société de consommation. Un monde désormais complètement dépassé, alors qu'un nouvel écosystème a pris place.
Merci Mathilde pour cette petite escapade dans le futur. On enchaîne tout de suite avec l'utopie oubliée.
L'utopie oubliée.
L'utopie oubliée, c'est quelques minutes pour revisiter la thématique de l'émission à la lumière des mythes fondateurs, réels ou fantasmés. Ce soir, Pauline nous parle chiffon et poésie.
Pour vous mettre en jambes, laissez-moi vous réciter du Baudelaire. Souvent, à la clarté rouge d'un réverbère, dont le vent bat la flamme et tourmente le verre, au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux, où l'humanité grouille en ferment orageux. On voit un chiffonnier qui vient, hochant la tête, butant et se cognant au mur comme un poète, et sans prendre souci des mouchards, ses sujets épanchent tout son cœur en glorieux projets. C'est cet homme qui cogne au mur comme un poète qui nous intéresse. Aujourd'hui disparu, le chiffonnier est une figure qui a inspiré les artistes, mais aussi le symbole d'une certaine philosophie du recyclage, rien que ça. Laissez-moi planter le décor. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Paris est alors une vieille dame qui sent très très fort et Haussmann ne lui a pas encore refait la façade. C'est dans ce décor de fin du monde que le chiffonnier arpente inlassablement les rues de la capitale avec son crochet, sa hotte et sa lanterne, remuant la boue pour trouver des trésors. À cette époque, les Parisiens balayent devant leurs portes pour former un tas de déchets dans lequel le chiffonnier viendra trouver son bonheur. Le chiffonnier récupère des carcasses d'animaux, des cheveux, du verre et des chiffons. On ne jette pas les restes du lapin dégusté pendant le repas dominical. On les donne au chiffonnier qui les réintroduit dans la gueule béante de l'industrie nouvelle. Des os, on en fait de la gélatine, qu'on utilise pour les confiseries ou pour faire des pellicules. Ou on en fait des boutons, qui ornent nos jolis vestons. Ou du phosphore pour nos allumettes. Avec les cheveux, on fait des perruques et des toupets. Les peaux de bête retrouvent une seconde jeunesse sur les épaules d'une demoiselle. Et si c'est de la peau de lapin, tant mieux. On cuit à point et on récolte une colle de peau prisée des ébénistes et des doreurs. La ferraille, c'est l'affaire des ravageurs qui se rassemblent sur une île aujourd'hui disparue près d'Asnières. Et la boue fera le bonheur des paysans qui s'en serviront comme engrais. Rien ne se perd, tout se transforme et tout se vend car tout s'achète dans ce Paris qui n'a encore ni trottoir ni poubelle. Il paraît absurde d'imaginer qu'un objet n'ait qu'une vie, qu'il devienne indésirable aussitôt qu'il cesse de nous servir. Mais de tous ces trésors que cet inlassable collectionneur ramasse chaque jour, le plus emblématique c'est bien sûr le chiffon qui deviendra papier. Une matière symbolique qui le lie à un autre flâneur de l'époque, le poète. Son image s'affiche sur les gravures et s'infiltre jusque dans les vers de Baudelaire. Le chiffonnier devient alors un figurant coloré des arts et des lettres, comme le décrit Antoine Compagnon, auteur d'une passionnante étude sur les chiffonniers de Paris et leur place dans la littérature. Le chiffonnier connaît tous les secrets de la ville, car il laisse traîner ses oreilles partout. Libre et indépendant, on entend dire qu'il collectionne les âmes maudites et qu'il les glisse dans sa hotte. Opportuniste plus qu'anarchiste, certains le disent mouchard et plus proche de l'ordre que des insurgés. Bagarreur, il penche du côté du vin pour noyer la rancœur et bercer l'indolence, comme l'écrit Baudelaire. Antoine Compagnon le décrit comme une figure carnavalesque, unissant le mendiant et le roi, la fange et l'or. Il est le double allégorique de l'écrivain, comme lui marchand du papier, indépendant, flâneur, collectionneur. Aujourd'hui, notre homme a disparu. La faute de la pâte à papier qui a remplacé la pâte à chiffon, trop coûteuse, pour soutenir l'envol du secteur de l'imprimerie. La faute du préfet poubelle qui a réglementé la collecte des déchets et a imposé leur dépôt dans des récipients fermés pour essayer d'inculquer un peu d'hygiène à ces cutéreux de Parisiens.
la faute de la consommation de masse qui fera bientôt du jetable la norme. Alors doit-on souhaiter le retour de ce curieux personnage pour recycler nos carcasses ? Pas sûr. Pas sûr d'ailleurs qu'il sache quoi faire de nos vieux os de toute façon. Mais son histoire peut peut-être nous apprendre à porter un regard neuf sur nos vieilleries, à trouver nous aussi de l'or dans la fange.
Merci Pauline d'avoir ressuscité cette figure mythique du chiffonnier. Et maintenant, on enchaîne avec une petite pause musicale. New Paradise nous chante son amour des VHS, un beau déchet technologique ça encore.
C'était New Paradise, I Love Video.
La beauté du geste.
Dans Envers et Contre Tout, on mise sur l'avenir et on aime bien soutenir des projets qui sont en recherche de financement participatif. Aujourd'hui, on en a plusieurs à vous présenter qui souhaitent construire un futur enviable et durable. Alors à votre bon cœur, on commence avec la boutique de cosmétiques bio et made in France, Love Metic.
Alors qu'est-ce qu'on trouve chez Love Metic ?
Alors la boutique est située rue Vaugirard dans le 15e arrondissement de Paris. On y trouve les produits de base pour la cosmétique des femmes et des hommes, les ingrédients nécessaires pour faire soi-même ces produits et il y a aussi des ateliers pour produire ça soi-même.
Et de quoi a besoin Love Metic ? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de nous ?
Alors sa créatrice Morgane, elle a 25 ans, elle a eu du flair en lançant sa boutique en misant sur les cosmétiques maison et les marques naturelles, mais elle est partie du mauvais pied et les dettes s'accumulent. Alors elle cherche à sortir la tête de l'eau, à mieux communiquer et à créer un emploi pour tenir la boutique pendant qu'elle tient les ateliers. Elle est soutenue dans sa démarche par une communauté de blogueuses qui s'appelle Les Vrais Produits et qui met en avant des produits sains, naturels et écologiques.
Alors si ça tente les auditeurs, comment est-ce qu'on fait pour donner ?
Alors on se rend sur la page du projet Love Metic sur KissKissBankBank et on a jusqu'à mi-février pour l'aider. Et j'ai encore un autre projet qui est en phase avec la philosophie de ce numéro zéro déchet.
Dis-nous tout.
Il s'agit d'un jeu de société baptisé In the Loop, dans la boucle. Ses créateurs le décrivent comme un serious game, c'est-à-dire que non seulement on joue, mais on apprend aussi. Le but est de découvrir l'économie circulaire.
Oh, vaste programme. Et du coup, quelles sont les règles ?
Alors, les règles, je vais les laisser expliquer ça eux-mêmes.
Le principal objectif du jeu est de pérenniser votre entreprise en collectant des points de progrès. Le premier joueur qui collecte 7 points gagne. On gagne des points de progrès en mettant sur le marché des produits et en investissant dans certaines stratégies.
Donc voilà, c'est un jeu plutôt pour les professionnels. Et comme dans la vraie vie, il y a des événements qui peuvent se produire. Il faut alors chercher à s'adapter pour que son produit réponde à diverses attentes.
Ces événements peuvent être la baisse des coûts des matières premières ou la découverte d'une nouvelle source de matériaux à de l'augmentation des coûts des matières premières ou la perturbation dans la chaîne d'approvisionnement. La seule façon de gagner, c'est d'investir dans des stratégies comme la substitution de matériaux, l'économie de fonctionnalité ou la sécurisation des approvisionnements par la diversification des fournisseurs.
Voilà, en gros, plus on s'engagera dans la transition énergétique, l'approvisionnement durable ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et plus on aura de chances de gagner à ce jeu. L'idée est de démontrer les limites du modèle de développement économique actuel et d'apprendre sur de nouvelles bases qui montrent que les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux sont liés.
Ok, et de quoi ont-ils besoin ?
Alors, In the Loop a été créé par Cathy Wallen, une néerlandaise, lors d'un projet de fin d'études. Et son projet a donc vu le jour, justement, en néerlandais. Et maintenant, elle est épaulée par le pôle éco-conception de la région Nouvelle-Aquitaine et elle cherche à le traduire pour le développer en France.
Et comment est-ce qu'on fait pour l'aider ?
Alors, là encore, rendez-vous sur KissKissBankBank, sur la page In the Loop. Vous avez jusqu'à début mars pour soutenir le projet. Et bien sûr, on mettra le lien ainsi que celui de la boutique Love Metic sur le site de Envers et Contre Tous sur Radio Campus Paris. Et maintenant qu'on a investi sur l'avenir, on se fait plaisir en remplissant son agenda d'événements verts.
Les rendez-vous Gaiement.
Alors pour finir cette émission en beauté, on vous propose une série d'événements pour changer le monde et au moins et prendre un petit peu de bon temps également.
C'est déjà pas mal. Du coup, quels sont nos prochains rendez-vous écolo, Pauline ?
Alors, je peux vous proposer la Smile Party. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez le Smile Festival, qui est un festival vegan qui est fin juin 2018, qui sera fin juin 2018. Et là, ils font un petit événement de préchauffe, comme on dit, au Point Éphémère. Et ça aura lieu le 11 février. C'est un événement qui est en partenariat avec Radio Nova, Socialter et Enercop, avec au programme un son électropop, 100% énergie renouvelable, mais aussi de la cuisine végane, bien sûr. Il y aura la journaliste Mélanie Bauer, qui officiait chez Radio Nova et France Inter, qui anime une table ronde qui mêlera écologie et musique. Et côté concert, on aura, la Smile Party nous promet sur son événement Facebook des DJ en pagaille. Donc il y aura pas mal de choses assez intéressantes. Pour participer, c'est 5 euros et plus si affinité, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter au bout si le cœur vous en dit.
Et t'as quoi d'autre dans ta hotte de chiffonnière ?
Alors j'ai un événement, une conférence, une up conférence qui s'appelle « Construire le monde nouveau, tout un art ».
Comment l'art peut-il permettre au plus grand nombre de découvrir le monde et ses enjeux sous un nouveau jour ? Donc j'imagine que c'est une question que vous vous êtes toujours posée sans vraiment avoir la réponse. Eh bien, sachez que c'est aussi le thème de cette conférence et ça a lieu au hasard ludique mercredi prochain, donc le 7 février à 19h15. Et il y aura donc du beau monde, il y aura Julie Boileau qui utilise la photographie argentique comme médium pour sensibiliser les populations à l'écologie. Il y aura également Marc de la Ménardière qu'on avait découvert avec un documentaire qui avait pas mal tourné qui s'appelle Enquête de sens, où il raconte un peu son voyage à la recherche d'initiatives positives pour la planète. Il y aura aussi Amélie Mouget, qui est la rédactrice en chef de la revue dessinée. Donc, comme je disais, que du beau monde. Pour s'inscrire, ce n'est pas compliqué non plus. Il suffit d'aller sur le site de Up Conférence. Votre agenda est donc maintenant bien rempli. Mais il ne faut surtout pas oublier d'y noter la date de notre prochaine émission, vendredi 2 mars à 20h.
Envers et contre tout, c'est donc fini pour aujourd'hui. C'est une émission imaginée et préparée par Pauline Legrand
et Mathilde Doisy, avec à la réalisation Thomas Chemel et Éloi Tilulki.
Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 4e numéro et un grand merci encore à nos invités Augustin de Lemon Tree et Nelina de Zero Waste France.
On vous souhaite une bonne année à relever le défi Rien de neuf en 2018
et à ressortir les vieilleries en toutes occasions.